Soyez les bienvenus tous en ce lieu, le foyer de l'âme, qui est un foyer pour chaque âme. Que vous soyez ici présents ou présents à distance par le moyen des réseaux sociaux, nous sommes ensemble, nous sommes réunis et en communion. Bienvenue à vous dans ce temps de culte, ce temps d'écoute et de pause, ce temps de descente dans l'intériorité de l'être et d'élévation vers au-delà de nous-mêmes, ce temps de chant et de prière, ce temps pour déposer dans la confiance ce qui nous occupe en ces jours, nos inquiétudes, nos peurs, mais aussi nos espoirs et nos joies. Et nous le faisons chacun et ensemble. Bienvenue à vous, à qui la grâce et la paix sont données sans condition par l'éternel Dieu qui appelle à la vie, en Jésus le Christ qui donne la vie, par l'Esprit souffle de vie. Je vous invite à nous recueillir dans la prière. Éternel notre Dieu, nous voici rassemblés, heureux d'être ensemble en ce jour, en ces jours, et heureux que tu sois au milieu de nous, comme tu nous l'as promis par ton Esprit, en Jésus le Christ. Et nous avons faim et soif de ta parole, d'amour et de paix, de confiance et d'espérance. Alors nous nous tournons vers toi, Dieu de toute fidélité. Nous t'ouvrons notre âme, notre esprit, notre être. Amen. Nous restons debout pour la louange. Éternel, nous te célébrons pour ton souffle, cette énergie vivifiante qui inspire au cœur de toute personne le goût du vrai, la passion de la justice, l'attrait pour la paix. Il a suscité au cours des temps et suscite toujours des prophètes pour contrer la loi du plus fort, pour dénoncer les exactions, pour appeler à un retournement personnel et social. Il incite de génération en génération des êtres et des groupes à se réapproprier l'héritage reçu pour ouvrir à leurs contemporains des chemins d'espoir. Il permet à chaque être humain au cours de son histoire, de franchir des étapes inconnues, de s'aventurer sur des terres incertaines, de traverser des nuits, de surmonter des épreuves et de devenir ami pour autrui. Que notre célébration pour ton souffle qui nous inspire soit de lui être disponible en toute notre existence. Loué sois-tu, Dieu du souffle. Amen. Et nous poursuivrons la louange en chantant au psaume 72, « Revêt, Seigneur, de ta justice » dans le recueil de cantiques au psaume 72, les strophes 1, 2 et 3.
Thank you. discutons à présent la volonté de Dieu telle que Charles Wagner l'a imaginée. Passant, courbé sous ton fardeau, arrête-toi. Arrête-toi près de ce torrent qui descend au vallon. Assieds-toi sur ce vieux tronc. Ton âme est harassée. Pourquoi attendrais-tu, pour te reposer en Dieu, que telle chose soit accomplie que tu espères, ou d'autre, écartée, que tu crains? Ne sais-tu pas de quelle inquiétude tu te rends esclave? Et rien, jamais, ne te délivrera. Ton espoir s'accomplit, le malheur suspendu sur ta tête est éloigné. Combien de temps le ciel restera-t-il pur? Plus il sera bleu, plus tu trembleras de le voir se ternir. Ce n'est pas un pacte conditionnel qu'il faut conclure, mais un pacte au-dessus de toutes les conditions. Assure-toi en Dieu, non parce que la route est sûre et l'horizon serein, mais que la route soit sûre ou non, le ciel chargé ou limpide, ne fais pas dépendre ta paix d'un rayon de soleil. Que l'essentiel te devienne plus ferme et les choses qui viennent et vont t'agiteront moins.
C'est encore le pasteur Charles Wagner, le fondateur du foyer de l'âme, qui nous guide dans la prière de confession du péché. Toi qui seul juges et connais, je viens à toi et je me réfugie en tes abris. Que nulle force ne viole. Je veux te dire ce que personne ne comprend et ne peut partager. Fille du soleil, la fleur cherche le soleil. Ta fille, mon âme, te cherche, ô Père. L'être caché que je porte en moi te réclame. Ce qui en moi-même demeure innommé te cherche. Inconnu aimé, en qui plongent nos racines, j'ai soif de toi. De toutes mes fibres je t'appelle. Toutes mes ténèbres pressentent ta lumière. Ma misère est un abîme, ton amour en est un autre. Il faut qu'ils se rencontrent. Amen. amis, frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce de la grâce, et c'est la suite du texte de Charles Wagner. Déjà tu m'aimes, puisque je vis, et ton aile me couvre. Le germe obscur qui sommeille attend ses ailes aussi, son jour viendra. Ta chaleur me pénètre, ta tendresse m'environne. Je suis encore de la nuit, mais de la nuit où s'élabore une aube. Je suis encore incertain, et déjà tu m'es certain. Et mon devoir est tout baigné de ton éternité. Si je m'ignore, tu me connais, et cela me suffit. Douceur puissante qui mène les mondes, tous mes secrets te sont connus, tous mes chemins je te les confie. Je suis heureux d'être un passant, puisque tu me conduis par la main, toi qui demeures. Et je vous invite à chanter notre reconnaissance au cantique 264, rempli d'amour et de reconnaissance.
Seigneur, dans nos obscurités et dans nos doutes, que ta parole nous éclaire, qu'elle nous conduise sur les chemins de ta justice, de la paix et de l'harmonie retrouvées entre les hommes. Quand rôde parfois autour de nous le spectre de la doctrine et de la pensée unique, qu'elle nous rappelle que c'est en nos singularités, en nos différences, que réside la richesse et la justification du monde. Amen. Nous lirons ce matin dans l'Évangile selon Marc, un ouvrage qui n'a de cesse de surprendre par sa rhétorique très particulière. Un ouvrage dont il me paraît intéressant de rappeler, à l'éclairage des récentes découvertes menées par François Vouga, que nous avons accueilli il y a quelques semaines pour les cultes conférences, et Carmen Burkhalter, que son auteur pourrait en réalité être une autrice, évoluant dans les cercles pauliniens du 1er siècle. Cette hypothèse trouve sa substance dans différents extraits, dont celui qui va suivre. Je vous propose donc la lecture des versets 3 à 9 du chapitre 14. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. « À quoi bon perdre ce parfum ? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours avec vous. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Alors que les disciples sont attablés, assemblée a priori exclusivement masculine, selon les usages de la société judaïque d'alors, une femme fait irruption. Qui est-elle ? Marc, ou supposait-elle, ne nous le dit pas. Un vase d'albâtre, du nard, un matériau raffiné, si ce n'est précieux, une huile parfumée de grand prix, voilà peut-être les seuls indices sur son identité. Qui peut bien les posséder ? L'épouse d'un riche propriétaire ou d'un riche étranger ? Ou, qui sait, une femme entretenue qui monnaie ses charmes, autrement dit, une courtisane ou une prostituée ? Parfaitement anonyme ici, comme dans le récit de Matthieu d'ailleurs, cette femme deviendra chez Luc une pécheresse à la sensuelle chevelure lâchée. Cette femme ne parle pas. D'ailleurs, a-t-elle droit à la parole pendant une réunion d'hommes ? Ceux-ci discutent-ils seulement ou prennent-ils leur repas ? Auquel cas, le seul rôle dévolu à cette femme à cet instant serait, toujours selon la norme sociale d'alors, le service. Pourtant, en la laissant entrer et agir, Jésus la reconnaît en tant que personne, elle qui est habituellement mise à l'écart de l'action, de la décision. Elle est ainsi ressuscitée. Cette femme rompt le vase, c'est-à-dire brise le sceau qui le ferme et répand sans doute avec soin l'huile précieuse sur la tête de Jésus. Geste sacralisateur d'autant plus scandaleux s'il est exécuté par une exclue. Le verbe « rompre » traduit peut-être aussi la notion de transgression. Comment une inconnue qui aurait pu obtenir ce riche présent de façon contestable peut-elle oser s'approcher du maître et porter ses mains vers lui ? Mais est-ce bien cela qui scandalise les disciples ? En réalité, pas vraiment. Ce qui les indigne, ce n'est pas le geste lui-même, mais précisément la valeur du produit répandu. On aurait pu en tirer 300 deniers. Pour mémoire, un peu plus tard, Judas livrera Jésus pour 30 deniers, 10 fois moins. Véno, les disciples ? Bien sûr que non, ils s'en défendent. Cette somme aurait été destinée aux pauvres, pas à eux-mêmes. Mais une telle justification de leur réaction spontanément très critique ne témoigne-t-elle pas justement d'une relation très particulière à l'argent ? Leur attitude soulève également un autre problème de fond, Ils semblent considérer que le parfum répandu est trop précieux pour leur maître. Alors, il est certes le Fils de Dieu, mais tout de même, quelle dépense somptuaire! À quoi bon perdre ce parfum? Au lieu de se réjouir, ce qui n'excluait pas d'admettre une certaine démesure du geste, ils s'indignent pour une question d'argent, ce qui interroge la force de leur conviction, ou du moins conduit à se demander, aux yeux des disciples, que vaut-il ce Seigneur? À l'évidence, ils ne comprennent pas que ce geste, qu'ils jugent inadapté, est d'abord le signe d'un amour sincère, sans calcul, inconditionnel. Et si on se limite à la pécheresse suggérée par Luc, peut-être faut-il y voir une forme de repentance, pas seulement une demande de pardon, mais plutôt une volonté de conversion, de changement de vie. Peut-être même a-t-elle appris, cette femme, que la vie de Jésus était menacée, sa mort inévitable. Il l'a dit à son entourage et les gens parlent autour de lui. Ce geste constitue alors pour elle une ultime preuve de foi. Un dernier geste d'amour désespéré en reconnaissance à celui qui va disparaître, comme un adieu. Il faut que je lui montre avant qu'il soit trop tard. Contrairement aux disciples, pour cette femme, dans sa foi, son amour, peu importe le prix terrestre de son offrande, Jésus, dont elle va peut-être jusqu'à pressentir le destin imminent, le vaut bien. Alors me direz-vous, la scène est assez théâtrale, l'offrande de trop grande valeur peut-être, mais cette femme agit de façon désintéressée et spontanée. Elle exprime en silence sa foi sincère, son amour et sans doute sa gratitude envers Jésus, dont la parole est parvenue jusqu'à elle et a redonné sens à sa vie. Cette offrande est louange, peu importe qu'elle plaise ou déplaise aux disciples. Elle a fait ce qu'elle a pu, avec ses moyens, ses références, ses normes. C'est trop, ou c'est trop beau, sous-entendu, c'est trop cher. Qui n'a jamais entendu cela à propos d'un cadeau offert? Comme s'il était question d'un quelconque mérite, d'argent gâché, ou peut-être d'une forme de redevabilité. Et puis, il faut bien le reconnaître, il y a des cadeaux qui peuvent ne pas plaire, devant lesquels il faut s'efforcer de faire bonne figure, d'abord saluer l'intention de celui qui offre. Cette femme offre ce qu'elle a, sans arrière-pensée. Elle veut faire quelque chose de bien. Pourquoi contester ou railler alors sa démarche? Paradoxalement, on lui reproche d'offrir trop. Et alors? D'autant que Jésus ne dispose pas du parfum à sa guise. Elle le lui verse sur les cheveux. Son offrande, ce n'est pas seulement le produit, mais aussi et surtout l'onction. Cette compréhension globale, cette empathie, les disciples ne l'ont pas. Et loin de la valoriser, se bornant à défendre ce que eux considèrent comme convenable, ils dénigrent cette femme et lui causent de la peine. Comme le dirait Matthieu, pourquoi voit-il la paille dans l'œil de cette femme et non la poutre dans le leur? Ce qu'ils auraient dû apprécier ici, c'est sa volonté de bien faire, la gratuité et non le détail ou les effets de son action. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, Ésaïe chapitre 35, verset 5, mais ici, pas encore. Par sa réponse, Jésus enjoint ses disciples à s'attacher non à la valeur matérielle, mais à la valeur humaine et spirituelle de nos actes. Apporter sur l'autre, quel qu'il soit, fût-il une femme, dans les sociétés d'hier, d'aujourd'hui et de demain, un regard bienveillant, tolérant et affranchi de toute cupidité. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. C'est par ces quelques mots étranges et pesants que Jésus s'apprête à conclure ici son enseignement. Il affirme, comme il a déjà pu le faire et le fera encore, l'inéluctabilité de sa propre mort. Le geste de cette femme intervient alors comme une anticipation des rites funéraires et du processus de deuil traditionnellement rythmé dans le judaïsme. Il manifeste une conscience de la temporalité physique de Jésus dans ce monde et la projection dans une intemporalité de son message à faire vivre au siècle des siècles. Ceci posé, revenons quelques instants à l'objet central de cet épisode. Un vase d'albâtre renfermant un parfum de nard pur de grand prix. Ces détails, loin d'être anecdotiques, constituent peut-être d'importantes clés de lecture chez celui ou celle que l'on surnomme volontiers l'évangéliste du secret. Ne faut-il pas se demander, ici comme ailleurs dans l'ouvrage, quel message dissimule ces façades descriptives et son aridité sémantique ? Spontanément, que lit-on ? La problématique posée par la valeur vénale d'un produit précieux et de son contenant. Qui sait pourtant si un angle plus symbolique ne compléterait pas notre lecture ? La traduction courante de vase en albâtre oriente vers un matériau précieux ou semi-précieux. C'est oublié un peu vite que dans le grec ancien du 1er siècle, alabastrone, en français alabastre, est un terme générique désignant un vase allongé et étroit, destiné à contenir du parfum ou de l'huile de massage. Si l'origine étymologique du terme est bien albâtre, il n'en demeure pas moins que l'usage linguistique a progressivement fait abstraction du matériau dans cette qualification. Or, ce premier biais de traduction remet en cause un premier critère sur la valeur communément admise de l'offrande faite à Jésus, qui concerne non seulement le parfum, mais aussi le vase. Arrêtons-nous aussi sur ce nard pur de grand prix. La désignation nardou de cette huile parfumée obtenue pour information, j'ai fait les recherches moi-même parce que je ne savais pas trop de quoi il s'agissait, à partir du rhizome d'une sorte de valériane, pour le coup, est sans ambiguïté. Il en va différemment des deux qualificatifs qui l'accompagnent, dont la traduction est, je dirais, au mieux approximative, au pire arbitraire. Pistikos signifie bien pur, mais aussi digne de confiance, fiable, authentique. Polytelus indique le caractère de ce qui a un grand prix, de ce qui est cher, au sens pécuniaire, mais aussi au sens affectif de ce qui est aimé. Et si ce vase d'albâtre contenant un parfum de nard pur de grand prix, ou plutôt cette enveloppe contenant quelque chose de caché, scellé jusqu'alors, mais digne de confiance et d'amour, était la figuration du croyant, ici de la croyante, offrant ce qu'elle a de meilleur en elle à l'écoute de la parole. Dans cette acception, il n'est plus question d'objets précieux au sens matériel, ni de présuppositions quant à la vertu de celle qui le présente, simplement d'une personnalité féminine, tout à fait neutre, ni spécialement riche, courtisane ou prostituée. C'est une inconnue qui fait son entrée, dans toute son authenticité, sa confiance, pour servir et s'enrichir de la foi à laquelle Jésus nous invite. Par un geste qui rappelle l'onction des rois dans la tradition judaïque, elle consacre Jésus dans sa royauté, royauté dont il indiquera lui-même un peu plus tard, dans un autre évangile, qu'elle n'est pas de ce monde. Elle reconnaît en lui l'expression supérieure et la transmissibilité de la parole. Pour les disciples qui suivent Jésus depuis longtemps et ne comprennent pas toujours tout de son enseignement, sont parfois même rétifs ou méfiants, l'évidente spontanéité de la situation est éminemment vexante et peut expliquer la verdeur de leur réaction. Un autre détail sémantique peut nous surprendre dans cet extrait. Pour verser le parfum, l'inconnu rompt le vase. En réalité, brise le sceau qui maintient son opercule. Elle libère donc l'accès au parfum. Elle le révèle. Une révélation qui mentionne des sceaux brisés sur un livre, cette fois, nous en connaissons une autre, en grec, Apocalypsis. L'individu symbolisé par ce vase et ce parfum révèle donc, à la rencontre de Jésus, ce qu'il a de meilleur en lui, ce qu'il a de plus beau à offrir, dès lors qu'il se présente en confiance et en sincérité. L'évangéliste nous aide alors donc à conclure une double révélation. Ce que chacun de nous a de précieux dans sa personnalité, dans son individualité, il ne peut l'exprimer et le développer vers l'autre à travers la parole reçue qu'en acceptation de l'amour inconditionnel de Dieu. Et peu importe que le flacon soit précieux ou décoratif, si le parfum qu'il contient ne peut être versé. Par cette possible clé de décodage, l'auteur ou l'autrice entre d'ailleurs en résonance avec le trésor dans les vases d'argile évoqué par Paul dans sa seconde épître aux Corinthiens. Ce court récit questionne notre regard sur l'action de l'autre, sur le degré de compréhension que nous pouvons lui donner, en dehors de toute échelle de valeur. Le personnage, finalement assez anodin d'une inconnue, nous apprend qu'être soi-même, accéder à l'autre, lui offrir ce que l'on a de Dieu en soi et prendre de lui en retour, tout ceci n'est possible qu'en une foi confiante et sincère. C'est bien parce qu'il nous a aimés le premier que cette faculté nous est donnée. Non, il n'est pas coûteux de croire et à le faire sans calcul, en espérance, le bénéfice pour soi-même et pour les autres n'en est que plus grand. Elle a fait ce qu'elle a pu. Sous-entendu, elle l'a fait, elle. Et elle avait raison de le faire, même si cela vous bouscule dans vos repères. Nulle déculpabilisation facile, fatalité ou limite dans cette petite phrase, mais au contraire, un horizon ouvert devant nous. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Ce n'est pas tant la valeur d'une offrande ou la portée ponctuelle d'un comportement que Jésus désigne ici, mais plutôt la posture du croyant, universel et intemporel. Il nous exhorte à apprécier la bienveillance de l'autre pour ce qu'elle est, sans jugement ni calcul, et à nous placer nous-mêmes dans une posture de libre croyant, pour reprendre une autre formule chère à Charles Wagner. Dimension multiple et dynamique, donc, d'une foi qui questionne sur soi-même et ouvre nos cœurs en acceptation, en compréhension, en reconnaissance. Amen.
Merci Hervé pour cette belle et riche prédication. Je pense que son écho, plutôt son parfum, pourra au moins aller jusqu'à mardi, 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Et puis de toute façon, chaque autre jour pour la reconnaissance de la bienveillance d'autrui. Voici le moment de confesser notre foi. Je vous invite à vous lever. Je crois en Dieu, celui que nous ne pouvons ni comprendre ni atteindre, celui qui nous dépasse infiniment, nous environne de sa tendresse, nous soutient dans nos défaillances et nous anime de son ardeur. Je crois en Dieu, celui que nous rencontrons dans la recherche du sens de notre vie, cette recherche qui traverse l'histoire des humains et dont témoignent les Écritures. Nous le rencontrons surtout en Jésus le Christ, celui qui s'est abaissé, donné, approché pour nous parler, nous accompagner et nous transformer. Je crois en Dieu, dont l'amour pour nous en Jésus-Christ se manifeste par le don de l'Esprit. Esprit de paix, soif de justice, goût du service, compassion pour le prochain. Esprit qui suscite la confiance, l'amour et l'espérance, et qui nous permet de voir plus loin que la réalité du monde. Amen. Prenez place. Il y a beaucoup d'annonces à partager aujourd'hui. D'abord, merci à François Guerrier qui nous fait l'amitié d'accompagner ce culte ce matin. C'est François qui coordonne la cantate BWV 33 qui sera donnée ici en concert cet après-midi à 17h30. Aujourd'hui également, c'est comme tous les dimanches, la collecte pour l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge. Et j'ai eu un petit message de la responsable qui m'a demandé d'ajouter à la liste affichée dans l'entrée du produit pour faire la vaisselle. Je l'ai écrit, donc vous pouvez aussi y penser pour dimanche prochain. Également est affichée dans l'entrée une affiche, une page avec des coordonnées pour trois possibilités pour apporter de l'aide au peuple ukrainien. Alors bien sûr, il y en a d'autres, mais les trois possibilités qui sont indiquées là sont la Fédération de l'entraide protestante, la FEP, à laquelle l'entraide du foyer de l'âme et donc le foyer de l'âme est associé, l'Alliance mondiale luthérienne dont fait partie le PUDF, l'Église protestante unie de France en raison de sa composante luthérienne, et puis l'Armée du salut. Nous relayerons évidemment si des demandes plus précises nous parviennent dans les jours qui viennent, notamment de la FEP, nous les relayerons par voie d'affichage ou par voie de mailing. Dans les activités de la semaine, vous pouvez alors noter la pause biblique mardi qui sera consacrée dans la lecture, une traversée du livre des psaumes, qui sera consacré ce mois-ci à la vie bonne. Et nous lirons pour cela les psaumes 84 et 112. Mercredi, ce sera le jour du ciné-club. Alors Didier, merci de venir nous présenter le film de ce mois de mars.
Bonjour, donc mercredi 18h30, la suite du cycle Christianisme au cinéma, deuxième étage 18h30. Ça s'appelle Les premiers, les derniers, donc le titre vous indique un peu la thématique du film. C'est un film de Bouly Lanners. Si vous ne voyez pas qui est Bouly Lanners, vous l'avez sûrement vu parce que c'est un acteur belge qui joue les rondeurs comiques d'habitude. Vous verrez l'affichette dans le hall. Il a réalisé le film et il l'interprète aux côtés de Albert Dupontel. C'est un film récent. C'est pas mes habitudes. C'est très étrange. Alors, il y a un point de départ policier. D'ailleurs, il a été primé au Festival de Cognac. Il y a une esthétique plutôt western, ce sont les grandes plaines de la Beauce sous l'aérotrain, et un scénario qui zigzague de rencontres étranges en rencontres bizarres. Voilà. Mercredi, 18h30.
Alors, d'étrange en bizarre, si vous voulez lever l'énigme, c'est donc mercredi. Jeudi 11 à 12h30, ce sera l'heure de la pause spirituelle, comme tous les jeudis, dans ce temple. Et puis le soir à 19h30, l'étape suivante du séminaire sur le Notre Père, animé par notre ami Denis Guénoun. Et le lien Zoom sera envoyé aux personnes inscrites mardi ou mercredi. Vendredi 12, c'est le groupe Théo et Psycho qui terminera sa lecture du livre de Sigmund Freud, Moïse et le monothéisme. Et puis samedi 12, le groupe Ciel et Terre se réunira pour une nouvelle étape de son parcours sur le thème du nom, N-O-M. Et ce sera nos amis Lionel Sauter et Micheline Bauchet-Lemilon qui nous parleront des 99 noms d'Allah dans l'islam. C'est une réunion qui a lieu en présence et pour Zoom pour ceux qui ne peuvent pas venir. Samedi 12 à 15h, il y a un événement dans ce temple que va nous présenter Nicole.
Bonjour, d'abord quelques mots sur Musique et Chants de la Réforme, la fédération, qui regroupe des musiciens, des organistes, des chefs de chœur, théologiens et hymnologues. Elle vise à mettre en valeur le patrimoine protestant et souhaite contribuer au progrès de la musique d'église. Située dans la tradition musicale luthérienne et réformée, elle travaille au renouvellement et à l'enrichissement du répertoire avec le souci d'en élargir l'usage liturgique. Donc samedi matin, nous aurons notre assemblée générale à partir de 10h. Si certains d'entre vous ne faisant pas partie de l'association venir y assister, ce serait avec grand plaisir. Et à 15h, nous avons un moment musical où il y aura pièces d'orgue et chants d'assemblée, psaumes et chorales. Donc voilà, j'ai quelques petits tracts et puis il y a aussi des petites feuilles si vous êtes intéressé par l'association, sur le côté là-bas. Voilà, et donc avec plaisir de vous retrouver peut-être samedi prochain. Merci.
Alors, nous retrouver pour écouter l'orgue et chanter ensemble, ce qui est une bonne perspective. Dimanche 13, eh bien, il y aura bien sûr le culte à 10h30 avec les jeunes du catéchisme du foyer de l'âme. Il y aura également l'école biblique pour les plus jeunes pendant le culte. Et après le culte à 11h30, ce sera le moment de l'Assemblée générale de l'entraide du foyer de l'âme, l'association Loi 1901 qui s'occupe donc de solidarité, qui organise la collecte et fait beaucoup d'autres actions dans la paroisse. Et vraiment, vous y êtes invités, même si vous n'êtes pas adhérent à cette association, à l'entraide. Vous pouvez venir parce que cela concerne aussi toute la paroisse qui est engagée et qui nous aide beaucoup avec tous les bénévoles qui s'associent aux différentes actions. Donc dimanche prochain à 11h30, l'Assemblée générale de l'entraide du foyer de l'âme. Et je voulais aussi vous dire que dimanche prochain, ça aurait dû être ce dimanche, mais j'ai complètement oublié, comme j'oublie souvent. Mais dimanche prochain, nous changerons de temps liturgique et nous entrerons dans le temps de la Passion. Nous aurons donc une nouvelle feuille de culte avec de nouveaux spontanés, une feuille qui a été réalisée avec Nicole, Elisabeth et Fred, et que nous découvrirons donc dimanche prochain. Encore plusieurs choses à dire. Puisque c'est entré dans le temps de carême, comme il est traditionnellement appelé, je voulais vous signaler les conférences de carême traditionnelles qui auront lieu donc chaque dimanche du 6 mars jusqu'au 10 avril sur France Culture, donc ça commence aujourd'hui, de 16h à 16h30. Donc elles sont conduites cette année, ces conférences, par le pasteur Arnaud van den Ville, qui est pasteur de l'Église protestante unie de France à Gap. Et il a intitulé son parcours de conférence « Dieu à l'épreuve de la vie quotidienne ». Il y a quelques dépliants à ce sujet sur une des deux tables du fond. Vous pouvez aussi noter déjà que le dimanche 20, le culte sera assuré par le professeur Élion Cuvillier, qui est professeur à l'Institut protestant de théologie, et qui viendra au foyer de l'âme apporter la prédication, d'ailleurs tout l'ensemble du culte. Et donc ce sera une joie de l'écouter. Et puis le dimanche 27 mars, il y aura un culte court entre 10h30 et 11h. Et ce culte sera suivi à 11h par l'Assemblée générale de l'Association cultuelle du foyer de l'âme, c'est-à-dire l'association loi 1905 qui régit notre association cultuelle. Donc le dimanche 27, les personnes qui sont inscrites vont bientôt recevoir la convocation avec le pouvoir. Et si vous ne pouvez pas venir, merci de faire parvenir ce pouvoir. Et si vous n'êtes pas membre de l'association cultuelle, vous pouvez aussi y assister, y participer. Vous ne pourrez juste pas voter, mais pour tout ce qui est des informations et des échanges, vous pouvez tout à fait être présent. Donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a autre chose à se dire? Je vérifie. Non. Alors, voici le moment de l'offrande qui apporte votre soutien au foyer de l'âme afin qu'il remplisse sa mission et, premièrement, sa mission d'accueil inconditionnel. Et pendant cette offrande, je vous invite à vous lever. Nous chanterons le cantique 272. Ô mon Père, ma prière irait-elle jusqu'à toi ? Asseyez-vous. Nous nous recueillons chacun et ensemble dans la prière d'intercession. Éternel Dieu de vie, toi qui es Père de tous les humains, quelle que soit leur origine, leur culture, leur religion, toi qui es source inépuisable de bonté, d'amitié, de générosité, toi qui, en Jésus le Christ, relève et guérit, restaure et ressuscite, nous te présentons dans notre prière notre monde déchiré, où retentissent les bruits de la guerre, où s'élèvent des cris de haine et des mensonges. Nous portons dans la prière ceux qui se terrent dans des abris et ceux qui fuient, ceux qui perdent tout, ceux qui pleurent et qui ont peur, ceux qui sont blessés et ceux qui sont dans le deuil. Et notre prière rassemble des Ukrainiens et des Russes. Nous te prions pour ceux qui résistent aux discours trompeurs et aux déchaînements de violence, pour ceux qui se tiennent à la paix, à la justice, à la liberté et à la vérité. Nous te prions pour ceux qui portent secours, pour ceux qui font œuvre de compassion. Et nous mettons notre espérance en toi, en cette inspiration que tu répands généreusement sur les humbles comme sur les gouvernants. Qu'elle passe, qu'elle s'infiltre, qu'elle oriente les décisions avec plus de sagesse, plus d'humanité. Nous te prions en nous remettant nous-mêmes en ton amour. Nous te prions pour rester présents et solidaires dans ce monde, pour ne pas nous résigner, parce que nous voulons résister au pouvoir de la force et ne pas faiblir devant ce qu'il y a à faire et devant ce qui surviendra. Nous te prions parce que nous ne voulons pas nous laisser dominer par un esprit de peur ou d'indifférence, mais parce que nous voulons être animés de ton esprit de fraternité et de partage. Souffle en nous ce dont nous avons besoin de courage pour rester des amis, des frères et des sœurs, pour rester des vivants et être ainsi, pour tous, des témoins de ton amour sans condition. En communion avec Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Frère, en communion avec les croyants de toutes les Églises, de tout notre cœur, nous prions ces mots que Jésus nous a donnés pour accompagner chacun de nos jours. Nous les prions à voix haute ou simplement de manière intérieure. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation qu'Hervé va nous dire, puis nous chanterons le dernier spontané de la feuille de culte avant la bénédiction.
Toujours avec les mots de Charles Wagner. L'essentiel est d'être affermi en Dieu. Le reste suit. N'attends pas qu'un rayon de soleil t'apporte le droit d'être en sécurité. Qu'une haute volonté humaine se décide en ta faveur. Que le facteur, un jour, te remette le bonheur dans une lettre. Ne crains pas non plus que le malheur descende sur toi de quelques nuages, te saisisse par la main d'un ennemi ou fasse, inattendu, irruption dans ta demeure. Heure ou malheur, tout ce qui t'attend au détour du chemin, derrière les portes fermées, dans les replis de la pensée humaine ou sous le voile de l'avenir, dépend de ce que tu as dans le cœur. Sache-le, une paix existe que le monde ne donne pas et qu'il ne saurait ravir.
Amis, frères et sœurs, dans ce monde où nous vivons et qui est le monde tant aimé de Dieu, chaque jour et pour toujours, nous sommes bénis, encouragés, accompagnés, gardés dans l'infini amour de l'Éternel. Amen.